Allez, 19h30 ici, à Paris, l'heure est au débat sur RFI.
Le débat du jour. Romain Ozoui.
Objectif, produire chaque jour plus de 200 000 barils. Hier, lundi, deux géants, Total Energy et Petrobras, ont annoncé l'extension de deux champs pétroliers au Brésil. Et l'environnement dans tout cela, me direz-vous. Notre question ce soir, faut-il davantage condamner les entreprises? Car elles ont une responsabilité énorme pour atteindre les objectifs climatiques. Comment les contraindre à le faire? Est-ce que les actions judiciaires vont se multiplier à l'avenir? Qu'est-ce que ce bras de fer augure? Soyez les bienvenus dans le débat du jour. Et pour répondre à ces questions, nos trois invités ce soir, à mes côtés en studio, Florent Favier, bonsoir.
Bonsoir.
Vous êtes un des porte-parole de l'association Convention des entreprises pour le climat.
Absolument.
Vous organisez des parcours de transformation des modèles économiques pour les dirigeants, pour répondre évidemment à ces défis climatiques. Face à vous, Sébastien Mabille, bonsoir.
Bonsoir.
Avocat associé au cabinet Seattle Avocat, spécialiste du droit de l'environnement. Et notre troisième invité est en ligne avec nous, Marie Bozzoni, bonsoir.
Bonsoir.
Ça va être un exemple précis avec vous car vous êtes directrice générale des Vedettes de Paris, qui est une entreprise qui organise des croisières sur la Seine dans la capitale française. Merci beaucoup à vous trois d'avoir accepté l'invitation du débat du jour sur RFI. Pour commencer, est-ce qu'on peut, alors je me tourne vers vous Sébastien Mabille, évaluer l'empreinte carbone du monde de l'entreprise? Donc je disais, la responsabilité des grands groupes particulièrement est importante dans ce domaine. Est-ce qu'ils sont les premiers pollueurs?
Alors, oui, c'est possible d'évaluer l'empreinte carbone des entreprises. C'est même une obligation pour les entreprises européennes d'une certaine taille, hein, relativement grosse, d'évaluer cette empreinte carbone. Alors, cette empreinte carbone, sans rentrer dans les détails trop techniques, elle se distingue entre les émissions directes qui sont liées à la production de biens et de services et les émissions indirectes qui sont liées à la consommation de ces biens et de ces services. Pour prendre exemple celui de Total Energy, ces émissions directes, ce sont celles qui sont liées à ces entreprises de raffinage, ces champs de pétrolier d'extraction, le transport du pétrole raffiné. Et ensuite, ces émissions indirectes sont celles qui sont produites par ses clients, c'est-à-dire par vous, par moi, quand vous allez à station-service Total et que vous remplissez le réservoir de votre voiture et que vous émettez du CO2, ça rentre dans le cadre des émissions indirectes de Total Energy. Total Energy, ces émissions sont supérieures aux émissions territoriales de la France, donc à celles des 70 millions de Français. Ouais. Donc c'est un poids important. Et elles sont composées pour Total de 20% d'émissions directes, 80% d'émissions indirectes. Pour des banques, par exemple la BNP ou la Société Générale, qui ont dans le calcul de leur empreinte carbone, on compte les activités qu'elles financent à travers leurs activités de financement des entreprises. On est sur des empreintes carbone qui sont encore supérieures à celles de Total, donc de plusieurs centaines de millions de tonnes d'équivalent CO2 chaque année.
Moi, j'ai ce chiffre, 10 000 entreprises cotées en bourse, responsables à elles seules de 40% de l'ensemble des émissions qui sont liées au réchauffement climatique dans le monde. Est-ce que les entreprises sont les premiers pollueurs?
Alors, les entreprises sont les premiers pollueurs, mais les clients des entreprises sont également les premiers pollueurs. Et les États ont aussi, les gouvernements ont une responsabilité en qualité de régulateurs, parce que c'est eux qui ont la maîtrise de la régulation de l'économie. Donc, vous avez trois catégories de responsables, si on peut dire. Les individus, à travers leur comportement, leurs actes de consommation. Les entreprises qui ont une responsabilité évidente à travers les produits qu'elles offrent. Par exemple, Total Energy, c'est une entreprise qui se définit maintenant comme une entreprise qui délivre de l'énergie, donc son rôle c'est de délivrer une énergie qui soit la moins carbonée possible, et ensuite les États évidemment qui ont aussi une responsabilité immense.
Florent Favier, comment est-ce que vous accompagnez, parce que l'association Convention des entreprises, alors d'abord, Convention des entreprises pour le climat, pardon, CEC,
oui.
C'est une convention qui s'est tenue pendant 9 mois entre 2021 et 2022, qui a rassemblé 150 dirigeants d'entreprises.
Oui.
Il y a eu des propositions qui ont été formulées à l'issue de cette convention, l'été 2022, mais ça continue, votre combat continue. Vous continuez à accompagner des dirigeants pour qu'ils atteignent les objectifs climatiques fixés.
Alors aujourd'hui, on est à plus de 16 parcours qui ont déjà eu lieu ou qui sont en cours d'être en place. Et 16 parcours, c'est un peu plus de 2000 dirigeants d'entreprise. Notre raison d'être, c'est vraiment d'accompagner les entreprises pour favoriser la bascule d'une économie extractive vers une économie régénérative. L'idée, c'est de se dire que quand un dirigeant sait, quand il comprend le contexte dans lequel nous sommes et qui n'est pas que climatique. Enfin, il est important de préciser que c'est important, le climat, les équivalents de carbone, mais la biodiversité, les pollutions sont aussi des phénomènes qui ne sont pas forcément réglés si on règle le problème du climat.
Donc, c'est lié.
Ben, pas forcément.
Enfin, c'est un peu un débat dans le débat. Mais...
Non, mais c'est vrai qu'en fait, tout est lié. Ce qu'on leur apprend, c'est de travailler plutôt sur ce qu'on appelle les limites planétaires. Les limites planétaires, c'est les neuf grands phénomènes qui font que la vie est possible sur Terre. Il y en a neuf. Le changement climatique en est un. Le fait est que si on ne traite que du changement climatique, on peut bousiller la biodiversité à côté. Et donc, on ne sera pas sorti du problème. Ce qu'il faut, c'est travailler en systémie. Et le problème étant systémique, on essaie de leur apprendre que la résolution du problème est systémique et qu'un entrepreneur seul ne résoudra pas tout. Il faudra qu'il soit avec d'autres entreprises, il faudra qu'il soit avec ses clients, il faudra qu'il soit avec les États. Et donc, la coopération est une des solutions pour sortir du problème climatique, environnemental en général.
Est-ce qu'il y a suffisamment de feuilles de route qui sont imposées aux entreprises aujourd'hui, justement, face à, on va dire, l'adaptation au changement climatique?
Alors, moi, j'ai envie de réagir de deux manières. D'une part, quand vous parlez d'imposer, je pense que c'est important qu'il y ait des règles et des normes et qu'elles soient fixées par les États, par les scientifiques, enfin, sur des recommandations scientifiques qui sont rarement suffisamment écoutées, à mon sens. L'idée, c'est aussi de se dire que plutôt que de condamner, il faut inciter. Enfin, il faut condamner, mais il faut aussi inciter. Il y a beaucoup d'entreprises qui font pas bien, non pas parce qu'elles sont cyniques, il y en a certaines qui le sont, mais je pense que c'est une minorité. Parce qu'elles ne savent pas par où commencer, parce qu'elles n'ont pas forcément les moyens, les ressources humaines et la connaissance. Ce qu'on apporte, nous, à la Convention des entreprises pour le climat, c'est justement cette compréhension de la complexité des neuf limites planétaires et de comment faire pour arriver vers une feuille de route qui les prenne en compte. Et ça veut dire pour elles modifier relativement fortement, plus ou moins fortement, on va dire, leur modèle économique. Et c'est possible. Et on montre que non seulement c'est possible, mais dès lors que certaines arrivent à le faire, les autres ont moins d'excuses à ne pas le faire.
On a l'impression qu'il y a toujours un décalage entre les objectifs fixés par les entreprises et les objectifs atteints. Alors, je vais citer, par exemple, le mois dernier, il y a eu ce rapport de l'organisation Carbon Market Watch, portant sur 51 grandes entreprises dans le monde et qui montre bien qu'elles ont fait trop peu d'efforts, je ne vais pas rentrer dans le détail des chiffres, mais trop peu d'efforts pour réduire leurs émissions de gaz à effet de serre. Comment vous agissez, vous, face à cela? Est-ce que vous êtes d'accord déjà avec ça?
Si c'est une étude, il faudrait que je la découvre pour savoir si c'est réel ou pas. Notre façon d'être, c'est vraiment d'accompagner les dirigeants d'entreprise. Et Marie Bozzoni a fait partie des 150 premiers dirigeants d'entreprise. Et dès lors que eux ont compris, en fait, c'est plus nous qui menons la danse. On n'est pas là pour les coacher, on est là pour les accompagner, pour leur donner des outils pour qu'ils se dotent des meilleures pratiques pour leur entreprise et qu'ils arrivent à faire changer et évoluer leur modèle économique.
Alors, on va donner dans un instant la parole à Marie Bozzoni, mais je voudrais entendre un instant Sébastien Mabille, puisque vous parlez des entreprises que vous conseillez. Vous n'avez pas conseillé Total Energy?
Non, ça voudrait dire que son directeur général serait prêt à consacrer 12 jours de sa vie pour suivre nos conférences, et ce n'est pas encore le cas.
Parce que vous avez participé aux procédures qui ont pu être intentées à Total Energy en tant qu'avocat, Sébastien Mabille. Est-ce que vous imaginez, pour répondre à ce que dit Florent Favier, que le président, directeur général de Total Energy serait prêt à entendre, à être suivi pour atteindre ses objectifs climatiques?
En l'état, non. En l'état, non, parce que même si, effectivement, les conseils de Florent Favier seraient évidemment très importants, mais aujourd'hui, nous avons les scientifiques, synthétisés par le GIEC, qui disent que aucun nouveau champ pétrolier ou gazier ne peut être exploité désormais, et que finalement il faut terminer l'exploitation des champs existants et ne plus forer de nouveaux champs de pétrole et de gaz, alors que vous avez introduit le débat en annonçant les milliers de barils de pétrole qui seront à nouveau exploités par Total Energy au Brésil. C'est le GIEC qui le dit, c'est l'Agence internationale de l'énergie qui le dit également, et ce sont le groupe d'experts de haut niveau des Nations Unies mandaté par Antonio Guterres lors de la COP26 à Glasgow qui le disent également. Donc c'est-à-dire qu'il y a un consensus, pas uniquement des scientifiques, des Nations Unies, du politique, pour dire aujourd'hui, on ne peut plus développer de nouveaux champs pétroliers et gaziers. Ce n'est pas compatible avec l'objectif de l'accord de Paris. Et pourtant, nous avons une entreprise qui continue d'investir massivement dans le développement de ces nouvelles installations de production. Donc, il y a une incompatibilité qui est flagrante ici entre l'objectif universelle de limiter le réchauffement à 1,5 degré qui est inscrite à l'article 2 de l'accord de Paris et la politique d'une entreprise qui n'en tient pas compte.
Mmh. Alors, je vais donner la parole à Marie Bozzoni. Je voudrais achever ce ping-pong parce que ça m'intéresse. Je ne vais pas vous poser la question à vous, Sébastien Mabille, puisque vous êtes avocat et en plus vous avez participé à cette procédure. Mais Florent Favier, est-ce que vous estimez, vous, en tant que porte-parole de l'association Convention des entreprises pour le climat, qu'il faudrait condamner Total Energy pour ces raisons évoquées par Sébastien Mabille ?
Alors, on aime bien faire des pas de côté et se dire que condamner quand une entreprise ne respecte pas les règles qui lui sont imposées, ça va de soi. Après, il y a une condamnation qui peut être aussi une condamnation morale. Quand une entreprise fait des choses qui sont dans les règles, mais qui visiblement ne correspondent pas à l'intérêt général. Donc ça, c'est plus un risque que prend l'entreprise. Et ça, à mon avis, Total Energy est coutumière de ce genre de fait, puisqu'elle est souvent décriée comme étant le grand Satan. N'oublions pas que derrière, il y a des consommateurs. Enfin, ceux qui ont une voiture, et ils sont encore nombreux, et qui mettent de l'essence dedans, vont à la pompe mettre de l'essence. Donc il y a aussi un lien à faire avec notre propre comportement de consommateur. Ne mettons pas toutes les entreprises au pilori. Et puis le dernier point, c'est se dire, aujourd'hui, il y a des entreprises qui font des choses qui sont dans le respect total de la loi et des règles, mais pourtant qui compromettent les limites planétaires, qui compromettent la survie de la vie sur Terre. Et en revanche, il y a des entreprises, et Marie pourra en témoigner, qui essayent de faire bien, d'aller au-delà des attentes ou vers des contraintes réglementaires et qui se retrouvent face à des freins dus à des normes, dus à une impréparation de la collectivité. Et ça, c'est une double peine pour ces entrepreneurs qui sont des pionniers, qui sont des visionnaires, qui essayent d'aller plus loin encore que les restrictions qu'on leur impose, en se disant c'est important, il faut le faire. Et là, ils n'arrivent pas à trouver d'aide de la part des collectivités, de l'État. Et ça fait partie, à mon avis, des vrais sujets sur lesquels il faut travailler.
Marie Bozzoni, quels ont été ces freins, alors, dans votre engagement ? Parce que, évidemment, alors, ce n'est pas Total Energy en termes d'ampleur, mais c'est important, Vedette de Paris, qui organise des croisières sur la Seine, cette entreprise qui est présentée comme une entreprise modèle en termes d'engagement climatique. Notamment, vous avez remplacé, si je ne m'abuse, tous les moteurs thermiques de vos bateaux par des moteurs électriques. Quels sont les freins auxquels fait référence Florent Favier ?
Oui, alors on est en cours de transformer puisque ça prend quand même un petit peu de temps. Donc le premier frein, je dois dire que c'est de toute façon le temps entre la technique, juste entre la prise de décision et la réalisation. Ça, c'est le premier frein. Après, oui, nous, il se trouve que dans notre activité pure, on a été dans les premiers à mener ce type d'opération. Donc clairement, la réglementation n'était pas en place. Donc il a fallu avoir des négociations avec l'administration sur comment interpréter telle ou telle dispositions réglementaires qui existaient aujourd'hui. Je pense que clairement, les principales difficultés en fait, auxquelles on peut se heurter, c'est les sous. Parce qu'il faut des sous pour faire ça. Ça, ceci dit, je tiens quand même à tempérer les propos parce qu'aujourd'hui, on a quand même, nous, sur notre opération donc de rétrofit des bateaux, donc changement d'un moteur thermique à un moteur électrique. En conservant les bateaux, on a quand même des subventions qu'on a pu percevoir de l'État ou des dispositifs qui subventionnent également, tels que des certificats d'économie d'énergie. Mais ce n'est pas du tout suffisant et c'est vrai que nous, à proprement parler, entreprise du tourisme en sortie du Covid, dire qu'on allait investir une année de chiffre d'affaires dans la remotorisation pour limiter notre impact climatique, c'était pas forcément facile à entendre de tous. Donc c'était le principal frein. Le deuxième, si je peux dire, mais nous on n'a pas pris fait ce parti-là, c'est de savoir si en fait le consommateur, et on revient là-dessus, est-ce que le consommateur est prêt à valoriser cet engagement et ces investissements qui sont faits.
Ça veut dire payer plus cher.
Ça veut dire potentiellement payer plus cher. Effectivement, si vous investissez une année de chiffre d'affaires dans votre outil de travail, vous n'attendez pas à gagner, à avoir les mêmes revenus derrière, ne serait-ce que pour payer ces investissements. Nous, aujourd'hui, ce n'est pas l'option que nous avons prise. Nous avons décidé de ne pas augmenter nos tarifs parce que nous avons un produit vert. On s'est dit non, on souhaite maintenir un produit qui soit accessible à tous et sans distinction.
Et vous vous y retrouvez parce que cette conciliation, le fait de faire concilier objectifs climatiques, justement respect de l'environnement et objectifs économiques, c'est ce qui fait que de nombreuses entreprises ne tiennent pas justement leurs objectifs en matière environnementale.
Oui, alors nous, il faut trouver les bons partenaires financiers pour mener ces transformations-là, la première chose. Deuxième chose, c'est qu'en fait, nous, on en a quelque part, concomitamment, on a fait évoluer notre business model, si vous voulez. On est passé d'une logique quantitative à une logique qualitative. C'est-à-dire qu'avant, tout ce qui nous importait, c'est d'avoir le maximum de clients. Quel que soit le prix unitaire, on voulait du client, du client, du client, du client. Et en fait, on s'est rendu compte que l'important, ce n'était pas faire un nombre de clients, c'était plus d'atteindre un niveau de rentabilité qui permettait justement de financer ces investissements et qui n'est pas forcément corrélé avec le nombre de clients. Donc ça a été une évolution de notre business model que nous avons menée et qui pour le moment fonctionne bien et qui nous permet donc de financer ces investissements. Qui sont relativement lourds.
RFI, le débat du jour, Romain Ozoui.
Climat, faut-il davantage condamner les entreprises? La question qu'on pose ce soir, la semaine dernière, Total Energy, le géant pétrolier, a été visé par une nouvelle plainte, parce qu'il y en a eu d'autres précédemment, et les plaignants mettent en cause pénalement le groupe, je cite, pour sa contribution au changement climatique et son impact fatal sur les vies humaines et non humaines, fin de citation, et malgré cela, eh bien, et j'ai débuté l'émission là-dessus, Total Energy, avec un autre géant à ses côtés, Petrobras, a annoncé hier l'extension de deux champs pétroliers au Brésil avec la production chaque jour de plus de 200 000 barils. Mes trois invités, Marie Bozzoni, que l'on entendait, directrice générale des Vedettes de Paris, entreprise qui organise des croisières sur la Seine dans la capitale française et qui s'y est présentée comme une entreprise modèle en termes d'engagement climatique. Sébastien Mabille, avocat associé au cabinet Seattle Avocat, spécialiste du droit de l'environnement. Et Florent Favier, un des porte-parole de l'association Convention des entreprises pour le climat. Sébastien Mabille, je rebondis sur ce que nous a dit Marie Bozzoni, à savoir que finalement, pour tenir les objectifs environnementaux, la réglementation, je reprends ces mots, n'est pas en place. Le cadre juridique est pas, comment dire, ne permet pas aux entreprises justement de répondre aux objectifs climatiques aujourd'hui. Et c'est ce qui fait que bah, y a ces procès qu'on va évoquer qui se multiplient.
Alors, ce qui est vrai, c'est que les entreprises évoluent dans un cadre réglementaire qui est de plus en plus complexe, autant au niveau national qu'au niveau international, qu'au niveau européen. Mais aujourd'hui, il y a un certain nombre de normes, notamment sous l'impulsion de l'Union européenne, avec une directive très importante qui a été adoptée pas plus tard que la semaine dernière sur le devoir de vigilance. Ouais. Ces textes obligent les entreprises non plus à appréhender leur objet social comme étant uniquement la rémunération de leurs actionnaires, mais aussi à prendre en considération les intérêts de la société et à prendre en considération les impacts et à remédier les impacts que peuvent avoir leurs activités, parce que toute activité économique a un impact sur l'environnement et pas que sur le climat, hein, comme on l'a rappelé, et à essayer de les réduire. Donc ouais. ça c'est l'objectif de deux directives, deux textes essentiels, la directive sur le devoir de vigilance et la directive CSRD.
Et si elles ne s'y tiennent pas?
Et si elles ne s'y tiennent pas, bah c'est l'objet du procès que nous faisons contre Total Energy. Hein, on se fonde sur cette loi française qui a été pionnière en 2017 sur le devoir de vigilance pour demander au tribunal de contraindre Total de respecter l'accord de Paris, de respecter l'objectif de 1,5 degré qu'on considère comme étant un standard universel de vigilance, c'est-à-dire que, et d'ailleurs la démonstration en est faite hein, par rapport à ce qui a été montré pour Vedette de Paris, c'est-à-dire qu'aujourd'hui on a des milliers de collectivités, d'entreprises dans le monde et d'États évidemment qui déclarent poursuivre cet objectif de limiter le réchauffement à 1,5 degré. Donc ça devient une norme de référence, un standard de vigilance auquel les entreprises doivent s'aligner. En tout cas, c'est le sens de l'action que nous menons depuis 2020 contre Total Energy. Ouais. Alors ces procès prennent du temps, parce que ce n'est pas forcément très compatible avec la notion d'urgence climatique et le peu de temps qui nous reste pour ne pas consommer l'intégralité du budget carbone qui nous reste pour ne pas dépasser ce seuil de 1,5 degré. On espère la fin gagnée. Ouais. Et aux Pays-Bas, Shell, par exemple, a été condamné
important.
En 2021 à réduire de 45% de ses émissions, y compris ses émissions indirectes, d'ici 2030. Alors, Shell a fait appel et on attend à l'automne la décision de la Cour d'appel de l'AE.
C'est ça. Est-ce que le géant, finalement, à chaque fois s'en sort, entre guillemets, est-ce que vous croyez en une condamnation? En une condamnation, par exemple, pour évoquer Total Energy, cette procédure qui prend du temps et qui pourrait contraindre, parce que c'est ça le mot-clé, quelle pourrait être la condamnation de Total ?
Bah, nous, on y croit, c'est-à-dire une condamnation avec le cas échéant, avec une astreinte financière suffisamment importante pour que Total Energy puisse changer son modèle économique.
Ça peut être suffisant, pardon, mais encore une fois, on connaît les bénéfices records ces dernières années Total Energy. Est-ce qu'une astreinte financière, c'est d'augure à faire changer la trajectoire de Total Energy pour réduire, encore une fois, ses investissements dans les énergies fossiles?
C'est peut-être pas ce procès en lui seul qui va permettre de changer les choses, mais Total Energy a près d'une dizaine de procès en cours en France sur la question du climat, de sa responsabilité, plusieurs autres également aux États-Unis. Là où l'activisme judiciaire climatique est le plus important, c'est-à-dire de l'autre côté de l'Atlantique, hein, puisque sur à peu près 2000 contentieux climatiques dans le monde, il y en a près des deux tiers qui sont menés aux États-Unis. Les villes américaines qui supportent, la ville de New York, hein, que je représente dans le dossier Total Energy, a dépensé près de 45 milliards de dollars pour s'adapter aux conséquences du changement climatique. Donc ce sont des sommes considérables. Et aujourd'hui, ces collectivités, ces villes américaines demandent aux compagnies pétrolières de supporter ces coûts. Donc on a aussi un certain nombre de procès en cours aux États-Unis qui peuvent également changer les choses. Et finalement, c'est la somme de tout cet activisme mené par les victimes, hein, les collectivités, les associations, les victimes du changement climatique, mais aussi de plus en plus par les actionnaires. C'est-à-dire que à la dernière Assemblée générale de Total Energy, vous avez 20% des actionnaires qui ont considéré que la stratégie climatique de Total n'était pas adaptée aux enjeux. Alors 20%, vous pouvez me dire que c'est peu, mais l'année dernière, c'était 13% et l'année d'avant, c'était quelques pourcents. Donc on a aussi une montée en puissance de ces actionnaires et de cette pression interne dans les grands groupes industriels qui est aussi importante.
Et donc peut-être une brèche qui s'ouvre et qui fait évoluer ces groupes face à leurs responsabilités environnementales. Florent Favier, vous qui êtes porte-parole de l'Association Convention des entreprises pour le climat, ça vous inspire quoi, cette multiplication des procès climatique à l'égard des entreprises, puisqu'on pose la question ce soir, est-ce qu'il faut davantage condamner les entreprises ?
Ce sont de toute façon des actions qui ont une force symbolique qui est importante, et le fait que ça s'adresse à de très grands groupes, hyper riches, c'est important parce que ça montre que finalement personne, entre guillemets, n'est à l'abri de condamnations sur des sujets importants, graves même. Il y a deux mots qui ont été prononcés par Sébastien, c'est normes culturelles, et c'est vrai que ces procès-là, comme l'action que la CEC mène auprès des 2000 dirigeants qu'elle a déjà accompagnés sur des parcours, ce qui est important, c'est de se dire que finalement, c'est un peu ça qu'on est en train de faire. On est en train d'essayer de faire évoluer les normes. On est en train de montrer qu'il n'y a pas de valeur économique sans valeur écologique. Les deux sont intimement liés. Une entreprise qui détruit l'écologie détruit sa valeur économique à terme. C'est cette compréhension-là de quelque chose qui a l'air simple dit comme ça, mais qui est extrêmement complexe à établir, que nos parcours arrivent à faire au bout de 12 jours, et encore 12 jours c'est peu, mais dans la vie d'un dirigeant c'est beaucoup. Au bout de 12 jours, les entrepreneurs, les dirigeants comprennent que leur destin économique est lié au destin de la planète et à ses limites planétaires. Donc c'est vraiment important de changer cette norme-là. Plus il y aura de dirigeants qui les ont comprises, ces normes-là, ces nouvelles normes, plus vite l'ensemble du tissu économique pourra s'adapter et évoluer vers quelque chose de compatible.
Vous croyez en la possibilité de convaincre l'ensemble des dirigeants de ces normes-là, ou en tout cas une majorité de dirigeants, et donc moins d'avoir à passer par la case judiciaire. Vous avez dit qu'il y a une portée symbolique. Vous croyez davantage à la portée symbolique, elle est plutôt limitée, qu'à un effet de condamnation ?
La raison d'être de la CEC se fonde sur une théorie qui veut qu'à partir du moment où un certain nombre de personnes dans un groupe donné adoptent de nouveaux comportements, ça se diffuse à l'ensemble du groupe en question. Et c'est pas pour rien que sa raison d'être, c'est rendre irrésistible la bascule de l'économie extractive vers l'économie régénérative d'ici 2030. Ce côté irrésistible est fondamental. Les entrepreneurs, les dirigeants qui ont compris qu'il était de toute façon impossible de faire autrement, finalement diffusent tout ça dans leurs parties prenantes, auprès de leurs fournisseurs, auprès de leurs clients, auprès de leurs contractants, auprès des États, auprès des collectivités. Donc c'est vraiment important que cette bonne parole, entre guillemets, se répande massivement. C'est ce qui est en train de se passer, de se faire avec la CEC. Donc 16 parcours déjà réalisés, plus de 6 en cours de préparation. Donc oui, il y a un effet qui peut se faire avec la bascule, grâce aussi à des procès emblématiques, grâce à des actions emblématiques, grâce à des actions de terrain, même par des entreprises qu'on peut considérer comme petites, comme celles des vedettes de Paris, qui font qu'on montre que c'est possible. Tant qu'on montrera que c'est possible, on arrêtera de dire « mais non, on ne peut pas ».
Les procès emblématiques, je recite ce qu'a, l'exemple donné par Sébastien Mabille, hein, ce Shell, le géant Shell, condamné par un tribunal néerlandais à réduire de 45% ses émissions de gaz à effet de serre d'ici à la fin 2030. Donc il y a des condamnations avec des décisions importantes. Marie Bozzoni, vous qui êtes justement directrice générale des Vedettes de Paris, vous qui êtes directrice générale d'une entreprise modèle en termes d'engagement climatique, comment est-ce que vous voyez... Bah, la situation, on en a beaucoup parlé, c'est normal, on a Sébastien Mabille avec nous qui est avocat et qui participe à la procédure qui est intentée contre Total Energy. Comment est-ce que vous voyez le sort réservé aux géants pétroliers qui continuent de forer, entre guillemets, et qui est visé par plusieurs actions climatiques et qui poursuit son activité, alors que vous nous avez expliqué les difficultés financières auxquelles vous devez faire face pour être modèle en matière environnementale?
Écoutez, moi, il y a plusieurs points par rapport à ça. La première, c'est que l'entreprise, c'est un rassemblement de personnes et de personnes qui ont toutes, chacune, leur propre niveau de connaissance sur les différents sujets et des personnes qui sont des collaborateurs, des dirigeants, des actionnaires, des fournisseurs, des financiers. Et si vous voulez, pour moi, avant de condamner, puisque c'était un petit peu la question, faut-il condamner les entreprises ? Avant tout, il faut les former. C'est le premier point. Parce qu'une fois que tout un chacun, entre l'être vivant qu'il est, l'humain qu'il est, et également le dirigeant d'entreprise, comprend ce qu'il est en train de se passer et ce qui peut advenir demain, que ce soit pour soi ou pour son entreprise, je reprends les termes, la mise en action est irrésistible. On ne se dit pas non, on va continuer à faire ça, ce n'est pas possible. Enfin, je veux dire, c'est le premier point. Le deuxième point, c'est que aussi, je trouve que Vedettes de Paris a été effectivement assez volontariste, assez rapidement. On a très vite décidé de mener cette campagne de rétrofit de nos bateaux, mais ça prend du temps. Ouais. Et nous, on a pris la décision il y a. C'était la première session de la CEC nationale, donc il y a 3 ans, et on a mis 3 ans à voir le premier bateau arriver, alors que nous avions déjà des pré-études et autres. C'est-à-dire que la mise en mouvement peut avoir eu lieu dans une entreprise et ne pas pour autant être visible. Mmh. Et ça, c'est un point aussi important, parce que résultat, ça peut aussi s'essouffler. Et puis aussi, surtout, l'entreprise, elle n'a pas forcément la solution qui est déjà écrite. Encore une fois, nous, c'est relativement simple de se dire, on enlève les moteurs thermiques, on met des moteurs électriques. Bon, si par contre, je devais fabriquer des roulements à billes pour l'industrie, trouver des solutions qui me permettent d'avoir un moindre impact et que mes produits soient utilisés d'une manière plus vertueuse, ça prend certainement beaucoup plus de temps.
Ça prend plus de temps, mais ça veut dire aussi qu'il y a un manque d'accompagnement.
C'est-à-dire qu'aujourd'hui,
il nous reste quelques secondes.
L'accompagnement, c'est vraiment de formation et de compréhension de ce qui est en train de se passer. Je ne me mettais pas dans la catégorie des climato-sceptiques ni des écologistes. J'avais un niveau d'information égal à tous ceux qui regardent les journaux télévisés, mais je n'avais pas compris ce que ça voulait dire, le changement climatique et la perte de l'effondrement de la biodiversité. Et une fois qu'on sait ça, on n'a pas... Voilà, c'est naturellement en fait qu'on y va, et presque qu'on prend, qu'on devient missionnaire un petit peu, et donc que ce soit auprès de nos clients, nos parties prenantes, nos actionnaires, nos fournisseurs, et nos clients, puisque nous, on est un peu comme Total, nous 90% de notre bilan carbone, il est lié à nos clients, et donc on se dit c'est là qu'il faut agir.
Eh bien, on terminera par ce plaidoyer. Merci beaucoup. Marie Bozzoni, directrice générale des Vedettes de Paris, entreprise qui organise des croisières sur la Seine dans la capitale française. Merci beaucoup Florent Favier, un des porte-parole de l'association Convention des entreprises pour le climat. Merci Sébastien Mabille, avocat associé au cabinet Seattle Avocat, spécialiste du droit de l'environnement. Faut-il davantage condamner les entreprises pour des raisons climatiques? Oui, la méthode dure, entre guillemets, doit continuer à exister. On a donné l'exemple de Shell, mais la méthode douce, parce que vous rejoignez ça à la fois Florent Favier et Marie Bozzoni, est possible et est amenée à se prolonger. Allez, merci beaucoup à Florence Ponce, à la préparation de ce débat, Claude Battista, à sa réalisation. Avant de retrouver le journal de 20h, puis Mardi Politique, ce soir sur RFI, coup d'œil à Afrique Soir, ce sera à 20h30, heure française. Bonsoir Zéphirin Quadio.
Bonsoir Romain, bonsoir à toutes et à tous.
Et au programme ce soir, les élections générales en Afrique du Sud.
Oui, nous verrons que ce scrutin est déterminant pour l'ANC au pouvoir depuis 30 ans maintenant, le parti de Nelson Mandela, qui pourrait perdre la majorité, on voit tout cela à partir de 20h30.
Et puis on parlera aussi des assises nationales du secteur de la justice au Sénégal. Restez à